Chapitre 12. Dans un ouvrage intelligent et sensible, Jean de Fabrègues nous fait une excellente peinture de la situation religieuse en France pendant les années de la Restauration, puis du règne de Louis-Philippe. Il rappelle qu'en ces années-là, les élèves des collèges royaux mettent aux voix l'existence de Dieu et que ceux d'entre eux qui restent fidèles à la religion sont odieusement brimés et moqués. Dans son Charles X, l'historien Lagorce va jusqu'à dire « Un signe de croix est alors un acte de courage », ajoutant qu'à cette époque, une part du clergé ne se meut qu'avec gêne, timidité ou hauteur au milieu d'une société qui lui échappe. La foi n'est pas vécue par la nouvelle bourgeoisie. Ailleurs, de dangereux ferments, libre pensée, anarchisme intellectuel vont trouver dans les esprits encore secoué par les événements du début du siècle, la patte favorable. En sorte que, dit très justement Jean de Fabrègues, les années dans lesquelles le rayonnement du curé d'Ars va éclater connaissent peut-être le plus grand développement de la propagande antireligieuse qu'ait vu le XIXe siècle. Que lit-on entre 1815 et 1840 ? Voltaire. Tartuffe. Il en existe une édition populaire à 3 sous. Rousseau, Diderot et leurs pareils. En ces années, alors que bien des gens ne savent pas encore lire, on éditera 2 700 000 volumes de ces auteurs. C'est Béranger qui porte avec ses chansons insolentes et faciles toute la médiocrité dorée du temps où fleurissent à la fois la sottise, l'orgueil et la frivolité. Après 1830, le même Béranger se déchaînera, libre enfin de jeter aux quatre vents ses injures douceâtres et ses calomnies rimées. Le libertinage y est lié à l'attaque contre l'Église et celle-ci à la religion humanitaire vaguement déiste que le vicaire savoyard a laissé derrière lui. Quant à la bourgeoisie elle-même, on la verra devenir de plus en plus voltairienne sous Louis-Philippe et Napoléon III, et tout cela nous prépare les beaux jours du combisme, des fiches de l'athéisme sectaire. Quoi qu'il en soit, le curé d'Ars aura souvent affaire, et principalement vers la fin de sa vie, à l'exécrable faune des négateurs scientistes et des intellectuels ricaneurs. Il en viendra toujours à bout dans sa zone d'influence. Mais pour que la foi triomphe en ce stupide XIXe siècle, il faudrait 10 curés d'Ars. À Lourdes, ce n'est pas Bernadette qu'on cherchera, mais la grotte des apparitions. Alors que les pèlerins d'Ars viennent voir un homme, celui dont nous avons dit plus haut qu'il est déjà vénéré comme un saint vivant, et cet homme, ne l'oublions pas, est le curé d'un village de 240 habitants, au fond d'un pays triste et perdu. Or, de 1827 à 1859, et malgré le scepticisme de l'époque, cette petite église d'Ars ne désemplira pas. Déjà en 1828, le pèlerinage est dense. « Monsieur le curé, dit Catherine Lassagne, les autres missionnaires courent après les pêcheurs, même jusque dans les pays étrangers, mais vous, les pêcheurs vous courent après. » Étonné mais sincère, le saint répond aussitôt « C'est bien quasi vrai. » Cet attrait d'un seul homme vers lequel pendant 30 ans des foules entières vont s'ébranler est peut-être unique dans l'histoire humaine et dans les annales de l'Église. Ce qui est unique en tout cas, sans aucun doute, c'est l'ensemble du contexte d'Ars. Ce prodigieux brassage de miracles et d'infestations sataniques, de foules déferlantes et de modestes vies quotidiennes, cette habitude si longue et si bien ancrée de se mouvoir dans le surnaturel. Et quand on songe que l'essentiel des prodiges d'Ars nous échappe, car les plus grandes merveilles s'y passent dans les âmes. Avant d'être venu à Ars, dira un homme du peuple à l'abbé Monin, avant d'avoir vu le bon Père, j'avais peine à croire ce qui est raconté dans la vie des saints. Bien des choses me paraissaient impossibles. Maintenant je crois tout, parce que j'ai vu de mes yeux toutes ces choses et plus encore. Les premiers pèlerins d'Ars, il en sera de même pour les premiers pèlerins de Lourdes, sont des pauvres et des malades, bercés d'un immense espoir. Car personne ne saura jamais quelles aumônes ont ici ruisselé, jaillit des mains de M. Vianney comme l'eau miraculeuse du rocher de la Bible. Et personne ne saura exactement, en l'absence de tout contrôle médical et de toute organisation un peu scientifique, les guérisons qui s'y sont opérées. Pourtant, sur ces miracles, les témoignages qui nous restent sont nombreux. Un jour, c'est l'une des directrices de la Providence qui se meurt, abandonnée par les médecins. Elle ouvre tout à coup les yeux et dit « Je suis guérie ». À l'instant précis où M. le curé vient de faire les dernières prières pour son âme. L'abbé Vianney a certainement invoqué le ciel en faveur de la directrice, et d'ailleurs, la veille, il a dit avec ce langage savoureux qu'il prend parfois pour gourmander ses bons saints « J'ai presque grondé sainte Philomène ». J'étais tenté de lui reprocher la chapelle que j'ai fait bâtir en son honneur. La guérison est intervenue et sainte Philomène est rentrée en grâce. Catherine Lassagne, de son côté, raconte « Une de nous fit un jour à une pauvre femme l'aumône d'un vieux bonnet qui ne servait plus à monsieur le curé. Cette femme, en coiffant du bonnet la tête de son fils, pensait « Le curé d'Ars est un saint. Si j'avais la foi, mon enfant guérirait. » Cet enfant s'était fait une blessure à la tête. Quand, le soir, la mère voulut visiter l'abcès et faire le pansement, le mal avait disparu et la plaie était sèche. Et voici le témoignage d'une madame Raymond Corsevet. En 92, au mois de mai, il y avait à Ars un ecclésiastique de Moulins, phtisique au dernier degré, à qui M. Vianney avait annoncé qu'il ne guérirait pas, qu'il était pour le ciel. Malgré le redoutable pronostic, ce bon prêtre s'est obstiné à rester à Ars, attendant la fin de ses souffrances qu'il espérait encore de la toute-puissante miséricorde de notre Seigneur. Au plus mauvais jour de la maladie du Saint-Curé, il se rendit utile, multipliant ses soins, ses veilles, ses démarches, et se trouvant toujours des premiers à la peine. Une fois rendu à la santé, M. Vianney lui dit « Mon bon ami, vous avez été si charitable pendant ma maladie que le bon Dieu a changé ses desseins sur vous. Vous guérirez et vous érigerez à Sainte Philomène une statue dans une des églises de votre ville. » Tout s'est passé comme le curé d'Ars l'avait prédit. Un autre jour, je conduisis à Ars un de mes neveux, atteint depuis 6 ans d'une infection cancéreuse du caractère le plus grave. Monsieur le curé lui dit en l'abordant « Mon ami, guérissons vite l'âme, vous irez ensuite à Lyon vous faire opérer. Sainte Philomène dirigera l'opération et tout sera pour le mieux. Vous guérirez, certainement. » Monsieur Barillet, chirurgien de l'Hôtel Dieu, fit l'opération. 15 jours après, le malade vaquait à ses affaires avec les plus grandes activités. Il jouit à l'heure actuelle d'une santé parfaite. Nous pourrions remplir un livre entier avec ce genre de témoignages. Dans les premiers jours de mai 1851, le curé d'Ars annonce à une jeune fille, nièce d'un homme dont les yeux sont si malades que l'on désespère, « Ma petite, je crois que vous pouvez partir. La personne à laquelle vous vous intéressez ne souffre plus. » Et c'est vrai. Arrivée chez son oncle, la jeune fille le trouve parfaitement guéri. Dans un manuscrit de Jeanne-Marie Rivoire, l'abbé Monin a recueilli cette anecdote. Le jour où je quittais mon pays pour venir à Ars, je fis sur la glace une chute qui faillit me tuer. Pendant 4 mois, je n'en dis mot à monsieur le curé. Je travaillais dans la journée, mais la nuit se passait à souffrir. Une nuit, Jeanne-Marie Rivoire est allée se confesser avec d'autres pénitentes. Nous verrons que cette heure étrange est entrée dans les habitudes d'Ars, où rien ne se passe comme ailleurs. Monsieur Vianney, la remarquant, s'approche d'elle et dit « Ma petite, pourquoi vous levez-vous si matin, vous qui souffrez tant ?» Et Jeanne-Marie lui répond « Et vous, mon père, n'êtes-vous pas plus matinal encore? Avez-vous 2 âmes à sauver pendant que je n'en ai qu'une? Comment pouvez-vous être si charitable envers les autres et si dur envers vous-même? Pour moi, je me lève parce que je souffre moins hors du lit. » Finalement, le curé d'Ars veut envoyer la petite Jeanne-Marie consulter un médecin de Lyon. Elle répond aussitôt, avec sa vivacité naturelle, « Mon père, j'ai consulté bien souvent. Vous m'envoyez à Lyon pour me guérir, et les malades de Lyon viennent chercher la santé à Ars. Je n'irai pas à Lyon, parce que celui qui doit me guérir est ici. » « Eh bien, ma petite, J'y penserai, répond le saint. 8 jours plus tard, Jeanne-Marie est guérie. Le même témoin raconte, touchant l'enfant d'une certaine Jeannette Dumas, un autre événement inexplicable. Le petit garçon en question souffre d'une maladie qui amollit ses os, au point que ses membres ne le portent absolument pas. La mère s'est déjà rendue près du curé d'Ars qui lui a ordonné de faire une neuvaine à Sainte Philomène. Dès son retour, Jeanne-Marie Rivoire en parle à M. Vianney. « Mon père, dit-elle, j'ai vu dans mon voyage un enfant bien malheureux, pour lequel on vous a demandé les secours de vos prières. »« Ma petite, répond le curé, l'enfant serait bien guéri, mais ils n'ont pas fait la neuvaine comme il faut. » Mon père, ces gens sont pauvres, ils sont honnêtes pourtant, ils ont mal prié parce qu'ils sont accablés d'ouvrage. Guérissez cet enfant, s'il vous plaît. Et le curé d'Ars fait sa réponse ordinaire. Ma petite, j'y penserai. 3 mois plus tard, l'enfant marche normalement et il jouira par la suite d'une santé parfaite. Voici encore une histoire de guérison qui, cette fois, est attestée avec solennité par de nombreux et importants témoins. Nous lisons dans le certificat communiqué à ce sujet le 8 septembre 1859 à l'abbé Bonin lui-même, l'an 1859, le 27 mars, nous, Jean-Louis Chagnard, maire et président, François Berge, curé, Jean-François Julien Chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Denisot, Jean Lombard et Benjamin Pélissier, instituteurs communaux. Certifions et attestons qu'il est en notre parfaite connaissance que Madame Rose Esseric, âgée de 43 ans, avait perdu complètement l'usage de la parole depuis le mois de juillet 1858. Au retour de son pèlerinage d'Ars, au 3e jour d'une seconde neuvaine, a repris miraculeusement la parole dans la nuit du 23 du présent mois, ainsi que l'affirme son mari, homme de foi à toute épreuve. Nous, membres sous-signés, nous sommes convaincus de la véracité du miracle. Fait et rédigé à Montmorin dans le lieu ordinaire de nos séances, le jour et mois et temps, etc. La même semaine, un enfant de 8 ans qui ne peut pas marcher et que sa mère porte dans ses bras est conduit par elle auprès du curé d'Ars. Monsieur Vianney connaît cet enfant et l'a souvent béni. Cette fois, il lui adresse quelques mots et rentré chez eux, le petit infirme dit à sa mère « Vous m'achèterez des sabots parce que monsieur le curé m'a promis que je marcherai demain. » Et le lendemain, à la stupeur générale, on voit l'enfant courir dans l'église, disant à qui veut l'entendre « Je suis guéri, je suis guéri. » Mais toute manifestation de ce genre contrarie beaucoup M. Vianney, qui demande la discrétion lorsque des événements extraordinaires se passent à Ars. Il accueille donc la gratitude expansive du gamin avec un silence froid, puis sur les instances des témoins, bénit la mère et l'enfant. Enfin, de l'air le plus désappointé sur le ton du mécontentement le plus sincère, « Sainte Philomène, dit-il, aurait bien dû guérir ce petit chez lui. » Enfin, on connaît l'histoire célèbre de la femme qui vient voir M. Vianney, lui présentant son fils affligé d'une grosse verrue sur l'œil. Le curé d'Ars bénit l'enfant et consent à toucher la loupe qui le défigure. Il y pose donc son doigt et la tumeur disparaît à l'instant. Affreusement gêné et confus, M. Vianney, quand on lui parlera de l'incident, conviendra « Oui, il m'est arrivé une bonne farce. » Car l'humilité continue d'être l'une de ses vertus les plus profondes. Il voudrait disparaître. Qu'on ne parlât pas de lui, qu'on ne vit rien de ce qu'il fait. À un sceptique, il dit cependant, parce qu'il s'agit de l'honneur de Dieu, « Comment ? Vous niez les miracles ? Mais je peux vous certifier que j'en ai vu moi-même, et des plus étonnants. » On le pense bien, il s'agit des faits extraordinaires qui ont eu lieu par sa propre intercession à lui, curé d'Ars. Monsieur Vianney, bien sûr, ne le précise pas. Et Catherine, qui le connaît sur le bout de doigt, dira une parole de grande vérité. Il obtient beaucoup de guérisons, mais je crois qu'il aimerait mieux guérir les âmes. Un homme qui opère des miracles, qui a le don des larmes, qui passe pour s'infliger de terribles pénitences, qui va chaque jour au-delà des forces humaines, qui lutte avec les démons, qui obtient par ses prières la multiplication du pain, de la farine et du vin, qui tient n'importe quel auditoire en haleine pendant plus d'1 heure, sans jamais observer les règles élémentaires de la grammaire et de la syntaxe. Un homme dont on ne peut n'oublier ni l'accoutrement bizarre, ni la puissance persuasive, ni le regard bleu qui vit et rayonne dans un visage de crucifié. Cet homme-là, il faut bien qu'il attire les foules. Mais ce qui a le plus augmenté l'affluence, dira Catherine, ce sont les prières pour la conversion des pécheurs. La grâce qu'il obtenait était si forte qu'elle allait les chercher sans leur laisser un moment de repos. Il est impossible de mieux exprimer la vérité. On pourrait multiplier les anecdotes et témoignages touchant ce magnétisme étrange. Les pécheurs se précipitent vers le curé d'Ars. Dans sa personne, dit un pèlerin, il y a un je ne sais quoi qui captive et absorbe au point qu'on oublie près de lui les choses les plus nécessaires à la vie. Mal logé, mal nourri, levé avant le jour, pressé, coudoyé, repoussé, on brave le froid, la faim, la soif, la fatigue, tout enfin pour entendre quelques paroles du bon saint. On ne ferait pas tant pour un roi. En 1827, un autre témoin raconte qu'à 8 heures du soir, en allant à la bénédiction, il trouve une église remplie de fidèles, où les étrangers comptent en grand nombre. Il nous décrit les murs tapissés de dais et des bannières, le tabernacle resplendissant de dorures, l'ostensoir éclatant de pierreries, des multitudes de cierges dont la lumière se joue dans cet or et dans ces diamants. Et puis, un prêtre, exténué par le jeûne et l'éveil, prononçant d'une voix éteinte une prière dans laquelle il exhale son amour. Dès les premiers jours du pèlerinage, une histoire singulière, mais qui deviendra dans Ars monnaie courante, survient à Monsieur Vianney. Il est dans sa chambre vers 9 heures du soir lorsque, tout à coup, il entend frapper à sa porte avec vigueur. Un homme crie « Descendez, je veux vous parler ». Après avoir fait un peu attendre, le curé se résigne à ouvrir. Il voit un grand et robuste gaillard, très déterminé, qui lui dit « Venez à l'église, c'est une affaire entendue, je veux me confesser et tout de suite ». Le pauvre prêtre qui, à la crainte de Dieu, joint bien un peu celle des voleurs, hésite un instant. Mais le ciel l'emporte, et l'homme, un charretier, se confesse. Une fois l'opération terminée, il dit à Monsieur Vianney « Tenez, vous êtes bien enrhumé. Voilà des bas de laine et des chaussons. Mettez-les vite à vos pieds. » Le curé se rend à l'invitation, et le charretier s'en va, épanoui. Oui, Catherine a vu profondément juste lorsqu'elle a dit que la conversion des pécheurs est le plus gros hameçon de M. Vianney. Car détestant le mal et le péché, il ressent une compassion immense pour les coupables et ne peut s'empêcher de gémir à haute voix sur eux, sur les craintes que lui inspire leur destin. C'est à peine s'il peut réciter chaque soir « Mon Dieu qui ne voulait pas que les pécheurs périssent, tant il pleure ». En vérité, il aime les pauvres pécheurs. Il voudrait se confesser pour eux, et personne ne lui résiste. Entre des centaines d'autres exemples, citons la janséniste de Pharens, à qui son orgueil et son entêtement tiennent lieu de bon sens, et qui finit par céder aux instances de M. Vianney. Citons ce jeune homme qui vient à Ars, non pas attiré par la sainteté du curé, mais disposé à le trouver ridicule et à se moquer à la fois du comédien et de la comédie. Témoin de guérison, le jour même de son arrivée, il commence à se troubler. Et devant le curé d'Ars, il balbutie, hésite, tombe à genoux et se confesse. En 1842, un vieillard vient à Ars pour accompagner sa nièce qui désire consulter M. Vianney sur le choix de sa vocation. « Mon ami, dit le curé en l'apercevant, vous venez vous confesser ?»« Non, monsieur, répond l'autre un peu déconcerté, je n'en ai pas l'intention. » Bah, mon ami, il faut profiter de l'occasion. Peut-être qu'elle ne se représentera plus. Monsieur le curé, tout cela est bel et bon, mais ma confession n'est pas l'affaire d'un jour. Il me faudrait rester ici quelque temps, et je dépenserai mon argent. Il ne faut pas que cela vous inquiète, dit aussitôt Monsieur Vianney. Quand vous n'aurez plus d'argent, je suis là. « Je n'ai pas besoin qu'on me fasse l'aumône, réplique à son tour le vieillard d'un ton piqué. » Le curé d'Ars lui explique alors gravement le meilleur usage qu'il pourra faire de son argent. Puis revenant à l'essentiel, il lui enjoint de se confesser au plus tôt. Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Et c'est une nouvelle victoire du curé d'Ars. Une affaire souvent contée est celle de M. Messia, qui en fera lui-même le récit. Il y a 8 jours que je quittais Lyon pour faire une excursion géologique d'un mois à travers les montagnes du Beaujolais et du Mâconnais. Dans la voiture qui me conduisait à Villefranche se trouva par hasard un vieillard de mes amis qui se rendait à Ars. Il me fit des instances pour que je l'y accompagnasse. « Venez, me dit-il, vous verrez un curé qui fait des miracles. »« Des miracles ? » répondis-je en riant. « Je n'ai jamais cru aux miracles. Venez, vous dis-je, vous verrez, vous croirez. » Oh, pour le coup, si vous réussissez à faire de moi un croyant, c'est alors qu'il faudra crier au miracle. Eh bien, va pour une promenade à Ars. Ars est un joli mot. C'est un radical qui me plaît, car je suis artiste. J'ai du temps devant moi. Ars n'est pas loin du pays que je dois explorer. Je vous accompagne. Arrivé ici, mon ami me case chez la veuve Gaillard. Nous occupons la même chambre. De grand matin, il me réveille et me dit « Messia, voulez-vous me faire un plaisir ? Vous allez venir à la messe. » « À la messe ? Je n'y ai pas été depuis ma première communion. Ne pourriez-vous pas me demander autre chose ? Vous y viendrez pour me faire plaisir. C'est là que vous pourrez voir et juger le curé d'Ars. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de le bien regarder. Je vous chercherai une place d'où vous puissiez le voir à votre aise. » Quant à cela, j'y tiens fort peu, mais je tiens à ne pas vous désobliger. Vous voulez me mener à la messe ? Soit, je suis à vos ordres. Nous voilà dans l'église. Mon vieil ami m'installe dans le banc qui fait face à la sacristie. Bientôt, la porte s'ouvre et le curé d'Ars en sort avec les ornements sacrés. Ses yeux rencontrèrent les miens. Ce ne fut qu'un regard, mais il pénétra jusqu'au fond de mon cœur. Je me sentis écrasé sous ce regard. Je m'inclinai profondément, cachai ma tête dans mes deux mains. Pendant toute la messe, je restais immobile. Après la messe, j'essayai de soulever ma tête appesantie et je voulus sortir. Mais, en passant devant la sacristie, où se pressait la foule, j'entendis ces mots. « Sortez tous, sortez tous !» En même temps, une main osseuse se posa sur ma main et je fus attiré comme par une force invincible. La porte se referma sur moi. Je me trouvais vis-à-vis de ce regard qui m'avait foudroyé. Je balbutiais quelques mots. « Monsieur le curé, j'ai sur les épaules un poids qui m'écrase. » Une voix d'une douceur angélique, d'un timbre inconnu, qui ne me semblait pas sortir d'une poitrine humaine, me répondit. « Mon ami, il faut vous en débarrasser au plus vite. Mettez-vous à genoux. Vous me raconterez votre pauvre vie et notre Seigneur se chargera de votre fardeau. Car il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Alors mon trouble disparut un peu, et sans penser que je faisais une confession, je me mis à raconter à ce saint homme l'histoire de ma vie, depuis ma première communion. Pendant ce temps-là, il m'arrosait de ses larmes, et par moments s'écriait « Que le bon Dieu est bon, comme il vous a aimé. » Et moi, je ne pleurais pas, mais mon énorme fardeau disparaissait. Je finis par en être entièrement soulagé. Mon ami, ajouta le curé d'Ars, vous reviendrez demain. Allez devant l'autel de Sainte Philomène. Vous lui direz de demander à notre Seigneur votre conversion. Je n'avais pas pleuré à la sacristie. Mais j'avoue que je pleurais beaucoup aux pieds de Sainte Philomène. Oh, qu'il y a de volupté dans les larmes. Ce monsieur Messia assiste à la messe le lendemain et reçoit la communion des mains de monsieur Vianney. La joie rayonne sur leur figure à tous deux. Et le converti mourra 2 ans plus tard, heureux. Un jour, le curé d'Ars voit entrer dans sa sacristie un personnage fort élégant qui s'approche de lui et s'empresse de dire « Monsieur le curé, je ne viens point me confesser, je viens raisonner avec vous. » « Oh, mon cher ami, vous vous adressez bien mal, » répond Monsieur Vianney. « Je ne sais pas raisonner, mais si vous avez besoin de quelque consolation, mettez-vous là. » Le curé d'Ars désigne l'endroit où ses pénitents ont coutume de s'agenouiller, ajoutant « Croyez que bien d'autres s'y sont mis avant vous et s'en sont point repentis. Mais, monsieur le curé, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je venais pas me confesser, et cela par une raison qui me paraît simple et décisive, c'est que je n'ai pas la foi. Je ne crois pas plus à la confession qu'à tout le reste. Vous n'avez pas la foi, mon ami? Oh, que je vous plains! Un petit enfant de 8 ans en sait plus que vous avec son catéchisme. Je me croyais bien ignorant, mais vous l'êtes encore plus que moi, puisque vous ignorez les premières choses qu'il faut savoir. » Monsieur Vianney continue de parler, puis il en revient à son ordre inflexible et doux. « Mettez-vous là, je vais entendre votre confession. » « Monsieur le curé, » répond l'autre qui est déjà ébranlé, « c'est une comédie que vous me conseillez de jouer avec vous. Je vous prie de croire que je n'en ai pas le goût. Je ne suis pas un comédien. » « Mettez-vous là, » vous dis-je. Et l'autre se trouve à genoux, sans s'en douter et presque malgré lui. Il se relèvera quelques instants plus tard, non seulement consolé, mais parfaitement croyant, ayant pris, pour aller à la foi, un chemin court et foudroyant. À ses pénitents, M. Vianney dit la même chose qu'aux auditeurs de ses sermons, que c'est dommage. Encore, si le bon Dieu n'était pas si bon, mais il est si bon. Faut-il que l'homme soit barbare pour offenser un si bon père? Non. On ne peut pas comprendre tant de méchanceté et d'ingratitude. C'est que la foi manque. Nous comprenons cela un jour, mais nous comprendrons cela un jour, mais ce ne sera plus temps. Et encore, non. Le pécheur est vraiment trop malheureux, trop malheureux. Il pleure, essuie ses joues d'un revers de main. À telle enseigne qu'un jour, un homme qui se confesse à lui et qui garde le cœur sec et froid finit par lui demander. Mais qu'avez-vous donc à tant pleurer? Je pleure de ce que vous ne pleurez pas, dit Monsieur Vianney. À Catherine Lassagne, le curé d'Ars avouera, on ne saura jamais en ce monde combien de pécheurs ont rencontré leur salut à Ars. Mais comme il ne peut imaginer une seconde que de telles conversions soient opérées grâce à lui et par ses mérites, il ajoute aussitôt d'un ton sans réplique, le bon Dieu, qui n'a besoin de personne, se sert de moi pour ses grands ouvrages, quoique je ne sois qu'un prêtre sans science. S'il avait eu sous la main un autre prêtre, qui ait plus de raison que moi de s'humilier, il l'aurait pris, et il aurait fait par lui 100 fois plus de bien. Désormais, M. Vianney est prisonnier des âmes. Il ne peut plus rendre visite à ses paroissiens comme il aimait tant à le faire, ni se donner le repos d'âme dont il a besoin, en allant prier dans la campagne et méditer tout seul par les chemins. Lui qui a toujours eu besoin d'espace, il s'enferme dans cette petite boîte de bois où il entendra, lui qui a la haine du péché, ruisseler intarissablement le grand fleuve des péchés du monde. En hiver, il doit consacrer maintenant de 11 à 13 heures à cette besogne de pénitence. Et l'été, il confessera pendant 17 à 18 heures. Tous les prêtres nous disent qu'il s'agit là d'un véritable record, d'une sorte de pari impossible, d'un héroïsme à la fois physique et moral difficilement imaginable. À la mauvaise saison, M. Vianney dans sa cage est littéralement gelé. Il ne sent plus ses pieds, et le froid lui donne des maux de tête et des douleurs d'entrailles intolérables. En été, c'est pire encore. La foule qui se presse dans l'église, cette cohue de pécheurs qui l'attendent, ajoute à la chaleur du jour et ne laisse à M. Vianney qu'une atmosphère irrespirable. Et tout cela n'est rien, nous le répétons, à côté des blessures que chaque aveu, que chaque péché ouvre dans l'âme du curé d'Ars. Car il les ressent comme autant de coups de lance dont on frappe le corps du Christ. L'immense majorité des visiteurs dira au procès apostolique « Monsieur des Garets venait amener par la foi la piété ou le repentir. Et si quelques curieux se mêlaient à la foule, souvent l'indifférent était gagné à Dieu par un geste, un regard, une larme du vénérable curé. Des personnes de tout âge et de toutes conditions composaient cette multitude. Évêques, prêtres, religieux, jésuites et maristes en grand nombre, capucins, récollets, dominicains, nobles et plébéiens, ignorants et savants. Pour assurer le va-et-vient de ces multitudes, on améliore les moyens de communication, sans oublier la navigation sur la Saône. L'ébranlement devient général et le mouvement vers Ars quasi européen. Déjà, 20 000 personnes commencent à déferler chaque année dans ce village de 240 âmes. C'est à partir de la même année, d'ailleurs, que le pauvre monsieur Vianney doit s'interdire toute absence de sa paroisse. Il a la tristesse d'être renvoyé par Monseigneur de Vie de sa chère retraite pastorale et l'évêque lui déclare formellement qu'à l'avenir, il n'y viendra plus. « Vous n'avez pas besoin de retraite, dit le prélat, et il est à Ars des hommes qui ont besoin de vous. » Monsieur Vianney se résigne avec son lumineux sourire, mais ceux qui le connaissent savent déjà qu'il lui en coûte infiniment. En 1840, il y a tous les jours, et simplement parce qu'il existe à Ars, un prêtre qui s'appelle Monsieur Vianney, un service régulier de voitures supplémentaires entre Ars et Lyon. Plus tard, les choses s'amplifieront encore, et l'on parlera d'un nombre total annuel de pèlerins dans Ars égal à 100 ou 120 000. Il faut du mérite, désormais, aux pénitents du curé d'Ars. Et l'on imagine mal le tableau étrange que l'on n'a jamais vu auparavant et que l'on ne verra jamais plus, sans doute, offert par l'église d'Ars assiégée de pèlerins. Monsieur Vianney, nous dit un témoin, a parfois beaucoup de peine à pénétrer dans l'église où la foule s'engouffre tumultueusement avec une vivacité qui témoignait du désir que chacun avait d'occuper les premières places aux abords du confessionnal. En vérité, oui, c'est bien une cohue au milieu de laquelle il sera toujours difficile de faire de l'ordre avec le désordre. L'abbé Monin dira « L'empressement était parfois si grand qu'il y avait des chutes, des épisodes comiques, une indescriptible confusion qui ne cessait qu'au moment où le curé d'Ars apparaissait. » Il ajoutera cette description éloquente que nous tenons à donner textuellement. Par la suite, afin que chacun pût conserver son rang, on faisait entrer les femmes une à une au moyen d'une barre de fer qui remplaçait un ingénieux et célèbre mécanisme moderne. Le même système était mis en usage à l'entrée de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, qui sans cela eût été prise d'assaut. Le trop-plein s'alignait sur deux rangs en travers de la nef. Il n'était pas toujours facile de faire admettre cet arrangement et l'on rencontrait souvent des caractères rétifs et des gens sans éducation qui ne respectaient aucune consigne. Monsieur Vianney a dû beaucoup souffrir de ces exigences tyranniques. Il fallait qu'il eût continuellement près de lui une personne de bonne volonté, préposée à la garde de sa chapelle. 8 ou 10 femmes dévouées remplissaient tour à tour ses ingrates fonctions. Quelquefois, il arrivait que des personnes moins audacieuses, qui n'osaient employer la force pour s'ouvrir un passage à travers la mêlée, ou pour se défendre contre ces envahissements, après avoir passé plusieurs nuits sous le porche, n'étaient pas plus avancées que le premier jour. Monsieur le curé les discernait, et lorsqu'elles pouvaient le joindre et lui faire connaître leur position, il usait envers elles de la plus douce condescendance. Lorsque monsieur Vianney sort de son confessionnal, la foule est si épaisse qu'on est obligé de le protéger. Des gens énervés le tirent par sa soutane. On manque de le faire tomber. On le pousse. On va jusqu'à déchirer ses habits. Et lui ne se plaint jamais. Et nous ne devons pas croire que monsieur Vianney dépêche ses pénitents à la vapeur. Bien au contraire, il exige une confession en plusieurs temps. Et assez souvent la confession générale. C'est là un dur travail. Malgré le nombre extraordinaire et toujours croissant des pêcheurs qui s'agenouillent devant lui, il reconnaît les âmes, réussit à les suivre pas à pas quand elles reviennent à lui. Cet homme qui n'a pas beaucoup de mémoire parvient à se retrouver sans peine dans cet immense troupeau. Il est d'ailleurs aidé d'ailleurs aidé par l'extraordinaire divination qui lui permet chaque jour de répondre aux questions de certains pécheurs à première vue, sans que les pénitents aient eu même à les poser. Les témoins de ce don de seconde vue sont innombrables, et l'on peut quotidiennement vérifier cette sorte de miracle permanent. Un certain jeune homme de Rive-de-Gier veut un jour tromper M. Vianney en simulant le repentir. Bien entendu, il a l'intention maligne de raconter la chose en détail par la suite, quand il aura mis en défaut la perspicacité du curé d'Ars. Il aborde donc le saint d'un air pieux. « C'est un grand pécheur qui vient à vous. La douleur dans l'âme, dit-il. » Mais le curé, très sèchement, répond « Je n'ai pas le temps, mon ami. Il ne manque pas ailleurs de prêtres pour vous entendre. » Puis, tout bonnement, il lui tourne le dos. Le mystificateur s'étonne, mais ceux qui connaissent M. Vianney lui disent que le prêtre a sans doute lu au fond de son âme et qu'il y a vu l'intention de tromper. Ce jeune homme retourne à l'église, se met à genoux et se sent aussitôt pénétré d'un désir de confession. Le curé d'Ars, alors, le reçoit avec tendresse. Dans cette foule, nous l'avons vu, pour parvenir jusqu'à M. Vianney, il faut attendre, piétiner des heures entières, parfois toute la journée ou même plusieurs jours. Or, un certain M. Lacroix assiste à l'une de ces grandes presses en l'église d'Ars. Il est 5 heures du soir et M. Vianney, dans la sacristie, reçoit ceux qui sont arrivés la veille. Le curé d'Ars reste invisible. La porte de la sacristie s'ouvre et se ferme sur les pénitents qui se succèdent les uns aux autres sans arrêt. Souvent, on les voit émerger, tout joyeux et épanouis. Et le récit de M. Lacroix illustre avec éloquence et précision la patience de certains pécheurs, ce que représente pour eux quelques minutes d'entretien avec le curé d'Ars. Il nous décrit, par exemple, un jeune ouvrier dûment confessé qui sort de la sacristie. « Passant près de moi, il s'arrêta tout à coup en se frappant le front. « Ah, mon Dieu ! J'ai encore à lui parler, se dit-il à lui-même. Il faut que je lui parle encore. » Et il alla se remettre à l'extrémité de la file pour retrouver dans un jour ou deux un second tour.